Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Mondial Sport, l'émission de tous les exploits aux quatre coins du globe sur RFI. C'est une émission ouverte, donc vous venez comme vous êtes, il n'y a pas de dress code imposé. Rien à voir avec le mariage très sélect qui vient de marquer l'actualité sportive ces dernières semaines, celui entre le pilote de F1 le plus titré et la plus titrée des écuries. Tout simplement une écurie dont le logo est, ça tombe bien, un cheval cabré et une écurie qu'on reconnaît bien sûr à son rouge inimitable. Ferrari accueille Lewis Hamilton, le Britannique aux 7 couronnes mondiales. Porte-parole au passage du retour de la F1 en Afrique et seul grand pilote de couleur d'une discipline souvent critiquée pour son élitisme. Lewis Hamilton qui porte une belle tenue sombre sur ses premiers clichés à Maranello. Il pose comme une vedette devant une Ferrari et devant le siège de l'écurie italienne. La grande classe, un peu à la british, à l'italienne, surtout pour un mariage royal, mais un mariage plus vieux, en deux mots. Et oui, à 40 ans, Lewis Hamilton peut-il aider Ferrari à retrouver son lustre d'antan ? Les premières images, les premiers mots également de Lewis Hamilton au volant d'une Ferrari. Alors on aurait pu ajouter, parce qu'on est un peu taquin, un bruit d'accident de voiture à la fin. Le Britannique a en effet connu un petit accro lors de l'un de ses premiers essais au volant de l'écurie, d'une voiture de l'écurie italienne, à un premier accro dans la lune de miel. Qui dit mariage royal dit longue liste d'invités prestigieux dans Mondial Sport ce dimanche. Frédéric Ferré notamment, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la plume de la F1 dans les pages du journal L'Équipe. Ça en jette depuis plus de 20 ans, c'est ça ?
Alors, je ne suis pas la plume depuis plus de 20 ans. J'ai commencé à L'Équipe pour la F1 il y a 20 ans.
D'accord. Est-ce que c'est quelque chose d'extrêmement marquant dans votre longue carrière de suivi de la F1, cette alliance Hamilton-Ferrari ? C'est un transfert un peu comme, je ne sais pas, celui de Zidane au Real Madrid ou de Ronaldo au Real Madrid pour ceux qui parlent du foot ?
Ou de Mbappé avec le Real Madrid. Ouais, c'est la même chose. Vous unissez deux légendes ensemble. Vous parliez de mariage royal, c'est exactement ça.
Patrick Juillard, bonjour.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Membre de l'écurie Radio Foot, normalement sur RFI, mais vous vous permettez quelques arrêts au stand Mondial Sport de temps en temps, et notamment pour parler F1, on est ravis de vous recevoir. Gaël Anglevielle, il est à distance, peut-être a-t-il perdu trop de points sur son permis. Bonjour Gaël.
Bonjour Hugo, bonjour aux invités, bonjour aux auditeurs.
Vous aussi, vous faites partie de l'écurie Mondial Sport, journaliste, franceracing.fr, et puis auteur d'un livre sur Lewis Hamilton, non ? Qui va bientôt paraître.
Bientôt apparaître.
On prend date pour quand alors ?
Début mars, si tout va bien.
Il y a de nouveaux chapitres à écrire là en urgence ?
Ah ben là, avec l'actualité, oui, forcément, il y avait des nouveaux chapitres à écrire.
Baptiste Leduc, bonjour.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Alors vous êtes du service des sports de RFI et puis vous allez nous dire comment vous avez rencontré des fans français de Formule 1. Est-ce qu'ils pensent de ce mariage donc incroyable Hamilton-Ferrari ? Tandis que Francesco, qui lui est un tifoso, donc un fan de Ferrari venu d'Italie, est en ligne avec nous. Bonjour Francesco.
Bonjour. Bonjour.
Alors vous n'êtes pas en Italie, vous êtes né en Italie, mais vous êtes au Luxembourg, hein, c'est bien ça ?
Oui, j'habite au Luxembourg maintenant, c'est vrai. Et je suis la Formule 1 depuis, on va dire, une quarantaine d'années. Donc voilà.
Et donc c'est un grand moment. Après 40 ans, on peut encore être surpris. Et vous êtes surpris et heureux de ce mariage Hamilton-Ferrari ?
Ben, je suis un peu mitigé. J'espère qu'il ait toujours envie de donner 120% comme il a fait le long de sa carrière. Parce que Ferrari s'attend beaucoup de lui. Et donc j'espère qu'il a vraiment envie de ramener le titre après près de 20 ans sur la rouge. Voilà.
Oui, parce qu'on va en parler. C'est vrai que Ferrari est un petit peu en déclin. Alors, c'est tout relatif, mais quand on est fan de Ferrari, on attend d'un pilote qui soit à 120%. Bon, là, vous ramenez l'un des plus grands pilotes de tous les temps. Donc, logiquement, ça devrait être le cas. Mais c'est ça, c'est Ferrari, on ne peut pas tricher. C'est un peu ça?
Oui. Exactement, parce que nous, on supporte la voiture. Après, c'est très bien que Lewis Hamilton soit dessus maintenant, septuple champion du monde. On sait qu'il n'a rien à apprendre au niveau pilotage, mais nous, c'est la Ferrari qui compte. Et donc, Lewis Hamilton, s'il gagne, il sera le roi. Et s'il ne gagne pas, on sera un peu déçus, voilà, parce qu'on s'attend vraiment énormément de lui. Voilà.
Quels ont été les pilotes Ferrari qui vous ont marqué quelles sont les légendes auxquelles il doit se mesurer? Schumacher, on pense notamment à Schumacher.
Bien sûr, Schumacher. Moi, j'ai adoré aussi Fernando Alonso. Et tout petit, j'étais fan de Gilles Villeneuve. Voilà. Gilles Villeneuve, qui n'a pas été champion du monde et malheureusement, il a fait la fin que vous connaissez. Et après, de tout ce que j'ai vu, Fernando Alonso, c'est mon préféré.
Alors, comment on suit quand on est un peu de loin? C'est quoi le quotidien d'un supporter de Formule 1, un supporter de foot? On sait, il va au stade, mais il fait quoi, un tifoso de la Scuderia Ferrari au Luxembourg?
Alors, le Luxembourg, on a pas mal de chance, parce qu'on est à 1h30 de Spa-Francorchamps, qui est le plus beau grand prix, le plus beau circuit du monde, à mon avis. On n'est pas loin du Nürburgring. Dans le temps, il y avait Zolder, qui était ici à côté. Et donc, il y a vraiment pas mal de beaux circuits autour. Et moi, j'en ai fait plusieurs fois.
Donc, vous allez aller l'encourager. Vous allez aller encourager exactement. Lewis Hamilton. Bah, écoutez, Francesco, merci pour ces quelques mots. On vous souhaite évidemment une excellente saison avec, pourquoi pas, ce mariage à célébrer, plein de succès, plein de bonheur pour vous tous, les tifosi de Ferrari au Luxembourg et ailleurs. Le Grand Prix dont il parle, Frédéric Ferré, Francesco, c'est le Grand Prix de Belgique, c'est ça, Spa?
Absolument.
Ouais, donc, c'est pas loin du Luxembourg. Ça vous inspire des choses à ce que vous venez d'entendre de la part de
Francesco? Je vais rassurer Francesco. Il est motivé à plus de 120%. Et s'il a eu ce petit accident que vous avez mentionné tout à l'heure sur des essais privés avec une voiture qui est vieille de 2 ans, ça prouve qu'il est déjà allé chercher la limite au bout de sa deuxième journée d'essai avec moins de 150 km dans les pattes. Je trouve que c'est plutôt bon signe.
Patrick Juillard, ça veut dire quoi? C'est un peu le côté, c'est comme le joueur à l'entraînement qui y va franco, ça veut dire qu'il veut bien faire en fait.
Oui, il veut bien faire. Et puis ces essais, c'était des essais, comme on l'a dit, sur une voiture ancienne qui ne sera pas celle qui pilote. C'était des essais de mise au point et des essais pour qu'il s'acclimate un petit peu avec l'ergonomie, avec le pédalier, avec le volant, qui n'est pas le même que celui qui figure sur les voitures Mercedes, enfin un moteur Mercedes qu'il avait l'habitude de piloter jusqu'alors. C'est la première fois qu'il pilotera une voiture motorisée par autre chose qu'une mécanique Mercedes pendant cette saison. Donc c'est une adaptation, c'est pas anormal qu'il y ait une petite sortie de route comme celle qu'il y a eu. Voilà, moi j'aurais peut-être une autre question si Francesco est toujours avec nous.
Et Francesco est toujours là, effectivement.
Hamilton va piloter pour une écurie italienne. Il ne parle pas du tout la langue. Est-ce que vous vous attendez en tant que tifoso à ce qu'il apprenne l'italien? Est-ce que pour vous, c'est indispensable pour qu'il s'acclimate vraiment à Ferrari?
On va dire que Schumacher a gagné 5 championnats avec Ferrari sans parler vraiment italien. Après, je pense qu'Hamilton fera l'effort, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Nous, l'important, c'est qu'il aille plus vite que les autres.
Gaël Angleviel, vous êtes journaliste spécialisé en F1. Est-ce que, au-delà de l'image, il y a un vrai intérêt sportif? C'est un peu la question qu'on se pose à cette alliance. Là, on a beaucoup parlé des images, de tout ce que ça crée médiatiquement, mais est-ce que il faut aller plus loin que ça? Est-ce que vous pensez que ça va aller plus loin que ça?
Bah, disons qu'effectivement, c'est le très grand défi de la carrière de Lewis Hamilton, ce nouveau chapitre chez Ferrari. Je veux juste mettre une petite parenthèse. Lewis Hamilton a des notions d'italien. Hein. Il comprend l'italien, il comprend même le français. Hein. Mais il le disait justement dans son autobiographie publiée en 2008. il a roulé en Italie dans ses années karting. Donc, peut-être qu'effectivement, il a quelques notions qui doivent lui revenir en italien. Mais sinon, je pense que l'acclimatation sur ce sujet-là ne sera pas un très gros problème pour lui. Mais effectivement, là, on arrive, vous l'avez déjà dit, cette annonce d'Hamilton chez Ferrari, ça a été un véritable séisme. C'était la nouvelle dont tout le monde rêvait et jusqu'à présent, ça n'avait pas pu se faire parce que de toute façon, chacun avait des intérêts propres, et Hamilton et Ferrari. Et là, aujourd'hui, les planètes sont alignées. Il y a plusieurs arguments qui font que ce transfert a été rendu possible, notamment par la présence de Frédéric Vasseur à la tête de la Scuderia Ferrari, parce que les deux hommes ont déjà travaillé ensemble, Lewis Hamilton, dans ses années de formule de promotion, donc les deux antichambres de la F1, que sont la Formule 3 et la GP2 Series, qui est aujourd'hui la FIA F2, Lewis Hamilton a roulé dans des écuries pour Frédéric Vasseur. Donc les deux hommes se connaissent très bien, ont travaillé ensemble, et en plus, Frédéric Vasseur apprécie fortement Lewis Hamilton. C'est vraiment quelqu'un avec qui il aurait souhaité à nouveau travailler, et il se trouve que, voilà, on reprend l'expression, les planètes sont à nouveau alignées, et ce mariage a pu se produire. Mais en termes de passion, en termes de sportif, c'est clairement la chose qui était vraiment inespérée, voire attendue. Et au-delà de ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, je pense, 2025, va pouvoir permettre de booster les audiences TV, qui n'étaient déjà de toute façon pas au plus bas. La Formule 1 aujourd'hui a une excellente notoriété, mais je pense que la présence d'Hamilton chez Ferrari va booster un petit peu les audiences TV et pourquoi pas également la billetterie des circuits dont certains sont déjà au maximum.
Ce sera la cerise voilà. Sur le gâteau. Ça tombe bien, une cerise, c'est rouge comme les Ferrari. Céleste, stop this flame. Peut-être sera-t-il inarrêtable, Lewis Hamilton. Nous, on fait une petite pause, arrêt au stand de musique, et puis on reparle de l'arrivée du Britannique au sein de la Scuderia Ferrari dans Mondial Sport sur RMC.
Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day.
Mondial Sport qui analyse, décortique le mariage royal. Voilà, on se transforme un petit peu en gala, en voici, en magazine People, le mariage royal. Lewis Hamilton, Ferrari, Baptiste Leduc, vous vous êtes promené, on a entendu un tifoso italien de l'écurie Ferrari, vous vous êtes promené dans Paris pour rencontrer, alors non pas des fans de Ferrari à proprement parler, mais des fans de Formule 1, et forcément très hypé, comme on dit chez les jeunes, par cette alliance, ce transfert du siècle.
Oui, exactement. Alors je ne suis pas vraiment promené au hasard, je suis allé dans un endroit un peu stratégique, qui est l'Auto Passion Café, un peu le repère à Paris des amateurs de sport automobile. Et effectivement, j'ai rencontré des amateurs français de Formule 1 et ça va être intéressant parce que, contrairement à notre ami Francesco, certains ne sont pas amoureux de la voiture d'abord, mais surtout du pilote, et certains ont même changé d'écurie préférée pour suivre Hamilton. Ils étaient pour Mercedes avant, maintenant ils sont pour Ferrari. Et en tout cas, ils sont tous plus ou moins conquis. On va l'entendre tout de suite.
Des meilleurs choix pour finir la carrière. Pour l'histoire, parce qu'on reste sur Ferrari, qui est quand même l'écurie historique, la meilleure écurie dans l'histoire, et Bah, Hamilton, meilleur pilote de tous les temps, donc évidemment, fallait finir comme ça. Plus personne ne compare à Schumacher et finit enfin sa carrière en beauté.
C'est une déception, c'est sûr, parce que bon, j'étais grand fan de Mercedes, mais là, quand même, le meilleur pilote de tous les temps, dans la meilleure écurie du monde, c'est quand même quelque chose maintenant à voir. Mais bon, ça va être une belle saison, je pense. Red Bull, ils sont plus aussi à fond qu'au début. Ferrari, ils sont bien remontés. McLaren aussi, donc je pense qu'on va avoir une belle saison.
Ça relance Ferrari. Et je pense que l'année prochaine, ça va donner encore plus d'envie de regarder avec ces trois écuries-là.
Je pense que Charles a compris que de toute façon, lui, c'est l'histoire avec Ferrari et qu'il est là pour marquer l'histoire. Et Charles va marquer aussi l'histoire, mais le truc, c'est que... Je pense que Charles va être intelligent et il va comprendre qu'il n'y a pas de pilote prioritaire. Mais s'il peut aider Hamilton, qui est quand même le pilote qui l'a poussé à faire de la Formule 1 aussi, ça veut dire qu'il l'aide à accomplir son modèle, à avoir son 8e titre. Donc c'est magnifique, donc je pense qu'il va l'aider jusqu'au bout. Ils vont bien se battre.
Ça va être compliqué, parce que bon, les deux, c'est quand même les deux chouchous de Fred Vasseur. Je pense pas qu'il va choisir un pilote numéro 1 et les deux se laisseront pas faire, parce qu'ils voudront... Hamilton, il veut son 8e championnat et... Leclerc, lui, veut gagner son premier championnat aussi, donc je pense que ça va être tendu quand même entre les deux, mais tout en se respectant quand même mutuellement.
Comme ce qu'on discutait avec mon ami Louis la fois dernière, il y a eu des essais qui sont passés, il s'est crashé avec sa voiture là il n'y a pas longtemps. Il a fait la même avec McLaren, il est devenu champion, la même avec Mercedes, il est devenu champion, donc je pense qu'il peut faire la même chose avec Ferrari cette année. Hein.
Pour toi, il n'y a pas de doute, il y aura un 8e titre ?
Ah oui, bah bien sûr. Bien sûr, il y aura une
et dès la prochaine saison ?
Ça serait beau, ça serait magnifique. Au niveau des chiffres, ça serait magnifique, mais alors, moi j'en rêve, mais s'il y arrive, oui, ça serait incroyable. Moi j'y crois.
Moi je vois pas Hamilton cette année, mais par contre l'année prochaine, je pense qu'Hamilton, avec un an d'expérience avec Ferrari, je pense que ce sera plus l'année prochaine pour lui.
Frédéric Ferré, ils sont assez connaisseurs, hein, nos fans rencontrés par Baptiste Leduc. Notamment, ils rappellent le passif en termes de crash, donc apparemment de Lewis Hamilton dans ses précédentes écuries. Surtout, ils nous parlent d'un certain Charles. Charles, c'est Charles Leclerc, qui est déjà la figure de proue de Ferrari. Est-ce que, parce qu'on comparait un peu Ferrari au Real Madrid au football tout à l'heure, bah, vous faites venir une star, Lewis Hamilton, sauf qu'il y a déjà une star qui est là. Est-ce que les deux peuvent... cohabiter, même si Charles Leclerc, lui, il n'a pas du tout le palmarès et les 7 titres de champion de Lewis Hamilton, évidemment.
Alors, il n'a pas le palmarès de Lewis Hamilton, mais lui a l'amour des tifosi et l'amour de la Scuderia.
Pourquoi ? C'est quoi la touche, Leclerc ?
Il y a beaucoup de choses. Il faudrait faire une émission spéciale sur Charles Leclerc. Il le mériterait.
Il a son surnom, peut-être, déjà. Oui.
Il prédestinato. C'est vous dire comment les médias italiens et donc les fans italiens le considèrent. Et la manière dont il a su gagner une deuxième fois... Gagner Monza, c'est pas facile. Gagner Monza avec Ferrari, c'est encore plus dur. Gagner Monza une deuxième fois alors qu'il n'y est pas attendu, ça a été quelque chose de magique qui a transformé le petit prince de Monaco, qui avait réussi à battre, à enfin gagner à Monaco chez lui, après 4 années de malheur et de malchance. Et donc... Cette chose-là fait que Charles Leclerc ne sera jamais mis sur le côté, même si y a un de vos
fans, supporters,
qui racontait, qui disait il saura se mettre à part. Je pense que ça ne sera pas comme ça et que les deux auront l'intelligence de privilégier celui qui voudra gagner.
Et Monza, qui est le Grand Prix un peu à domicile de Ferrari, donc c'est pour ça que c'était très important.
C'est le Grand Prix italien du circuit, c'est ça ?
Il y en a deux, mais c'est celui qui est le plus proche.
Mais Monza, c'est le plus important.
C'est pas le plus proche. Le plus proche, c'est celui d'Imola, qui se court sur l'autodromo Enzo et Dino Ferrari, le père et le fils. Mais... Je ne saurais pas vous dire pourquoi Monza est le plus mythique.
Il y a un peu le Grand Prix de Saint-Marin de temps en temps.
Alors c'était autrefois, oui.
Maintenant, c'est le Grand Prix d'Émilie-Romagne, ouais. C'est ça.
Et malheureusement, Imola, pardon, c'est celui aussi
où Ayrton Senna
a trouvé la mort. Et on en avait parlé dans Mondial Sport. Gaël Angleviel, sur cette cohabitation Leclerc-Hamilton, ça s'est beaucoup vu dans l'histoire de la F1. Je pense à justement Senna, Prost, et c'était pas toujours simple d'avoir deux grands pilotes comme ça dans la même écurie. Comment est-ce que ça peut fonctionner ? Qu'est-ce que vous observez sur leurs premières apparitions, leurs premières communications ?
Je pense que c'est tout l'enjeu, effectivement, d'avoir un équipage aussi fort au sein de la Scuderia Ferrari. Et je pense que, encore une fois, Frédéric Vasseur saura gérer justement les deux égos des pilotes. Alors effectivement, vous l'avez déjà dit, Lewis court après sa 8e couronne mondiale et Charles Leclerc, dont il a vraiment tout un peuple derrière lui, les Italiens, courent lui aussi après son premier sacre. Donc effectivement, on est dans l'urgence pour les deux, mais je pense que, encore une fois, les deux pilotes peuvent vraiment cohabiter ensemble et surtout piloter intelligemment. Piloter intelligemment, ça veut dire d'abord piloter pour la Scuderia Ferrari, parce que c'est vraiment ça l'enjeu. Il faut que la Scuderia Ferrari aille à nouveau décrocher ses titres mondiaux. Le dernier pilote, c'est 2007 avec Kimi Raikkonen, et le dernier pour les constructeurs, c'est en 2008. Donc, il y a vraiment, effectivement, cette attente des tifosi, et il faut que les pilotes roulent intelligemment pour faire gagner d'abord la Scuderia Ferrari. Après, qui des deux aura le titre mondial, c'est la cerise sur le gâteau. Mais je pense qu'encore une fois, nous sommes là sur un schéma où Frédéric Vasseur a essayé de construire une Dream Team, et je pense que tous les éléments sont en place.
Patrick Juillard, comment ça va se manifester? En tout cas, c'est intéressant ça, parce que la F1, c'est vraiment un peu... qu'est-ce qu'on doit regarder? Est-ce qu'on doit regarder le pilote? Est-ce qu'on doit regarder l'équipe? Et quelle est la priorité?
Ferrari a réussi la saison dernière le meilleur résultat en championnat du monde constructeur depuis bien longtemps. Ferrari n'était pas loin de pouvoir battre McLaren au classement final. Leclerc, lui, a réussi sa meilleure saison, avec notamment les victoires à Monaco, à Monza, mais aussi à Austin, donc 3 victoires. Alors que Hamilton, lui, il reste sur 3 saisons un petit peu mitigées, où 2 fois sur 3, il a été devancé par George Russell au classement final. Donc je pense que lui veut se relancer, veut montrer qu'il n'est pas fini, parce que certains ont commencé à dire Hamilton est sur le déclin, Hamilton a moins faim. Et Leclerc, lui, justement, avec un Hamilton comme ça, un peu regonflé, remonté par le transfert, il va devoir mettre la barre encore plus haut en termes d'exigence. Donc, je suis hyper curieux de voir comment ça peut créer une émulation très positive, finalement, pour l'équipe, comme ça peut être quelque chose de difficile à gérer pour Frédéric Vasseur.
Je pense que ça sera aucunement difficile à gérer. Quand vous voyez la manière dont Nico Rosberg a suggéré l'arrivée de Michael Schumacher, il venait de signer pour sa première grande écurie en 2010, qui était Mercedes, un jeune pilote qui commençait à monter. Et 15 jours après sa signature, on apprend que Michael Schumacher va venir le rejoindre.
Il sortait de sa retraite, non, c'est pas ça, c'est Schumacher,
exactement,
en plus.
Exactement.
Donc il arrive en 2010. Côté, comme ça, vétéran, la légende revient.
Et la réponse de Nico Rosberg à cette époque-là est de dire « C'est fabuleux parce que je vais apprendre avec un pilote hors norme. S'il me bat, ben, c'est le 7 fois champion du monde qui me bat. Et si je le bats, mon avenir est assuré et ça prouvera que je suis un grand pilote. »
Voilà, ça permet de rappeler.
Et Charles Leclerc dit exactement la même chose.
Ça permet de rappeler qu'Hamilton est à égalité au palmarès dans l'histoire des championnats du monde avec Schumacher et que Schumacher a gagné la plupart de ses titres avec Ferrari. Donc il y a vraiment un lien entre les deux. On continue à parler de Lewis Hamilton à Ferrari dans Mondial Sport sur RFI d'ici quelques instants. Mais pour l'instant, on va faire un point sur l'actualité sportive de ce dimanche.
Mondial Sport.
Avec Christophe Direnzo qui nous a rejoint. Bonjour Christophe.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Vous n'avez pas résisté à la tentation de nous mettre le handball en une, puisque la France ne repart pas bredouille des Mondiaux 2025. Médaille de bronze aux dépens du Portugal.
À l'arraché, c'était pas pour les cardiaques. Cet après-midi, le money time de cette consolante à Oslo après le flop de la demi-finale contre la Croatie. Les Bleus qui l'emportent 35-34, ils ont évité la prolongation grâce à une parade décisive à 6 secondes du buzzer de Charles Bolzinger, le nouveau divin chauve de la France. Entrée en seconde période, ça n'a pas été encore simple une fois de plus pour les tricolores remodelés au coup d'envoi, notamment par la titularisation d'Emeric Mine au poste de demi-centre à la place de Nedim Remili, un choix payant qui permet d'atténuer donc la déception de la demi et de faire oublier l'échec des JO de Paris. Place maintenant à la grande finale entre les Croates et l'insatiable Danemark qui vise un 4e sacre d'affilée, c'est du jamais vu.
Le football est dans le pays de Lewis Hamilton, on joue la 24e journée de Première Ligue avec un choc Arsenal-Manchester City.
Oui, qui a démarré il y a 4 minutes précisément. Double objectif pour les Gunners, ne pas laisser filer Liverpool encore vainqueur hier à Bournemouth 2-0 et crédité pour l'heure de 9 points d'avance, et remettre de la distance avec son rival sur les talons, Nottingham Forest, qui était, on le rappelle, sans pitié hier avec Brighton, 7-0. Et puis tout à l'heure, encore un revers de Manchester United à domicile face à Crystal Palace, 2-0. 22e journée de Liga, courte mais précieuse victoire tout à l'heure du FC Barcelone sur Alavés, 1-0, un but de Robert Lewandowski. Les Catalans, 3e, restent au contact du duo tête madrilène à 3 longueurs de l'Atlético et à 4 du Real.
À la suite de la 20e journée de Ligue 1, le choc Marseille-Lyon en clôture.
Un Olympico entre l'OM, 2e, battu à Nice dimanche dernier et d'autant plus contraint de l'emporter que le leader, le PSG, on le sait, est allé cartonner hier à Brest 5-2 et que Monaco est revenu à hauteur des Marseillais après sa victoire sur Auxerre 4-2 en face des Lyonnais désormais sous la conduite de Paulo Fonseca pour relancer une équipe à la peine. Coup d'envoi 19h45 TU. Cet après-midi, Toulouse et Nice ont fait match nul un partout. Puis il y a 3 matchs en cours en ce moment. Rennes-Strasbourg, Angers-Le Havre et Reims-Nantes, et pour l'instant 0-0 partout. Enfin, le temps fort du jour en Serie A italienne, c'est le derby lombard. Milan AC Inter, ça démarre dans 25 minutes. Dans la soirée, le leader Naples jouera à l'AS Rome, et puis la Juventus tout à l'heure a battu Empoli 4-1.
Allez, puisqu'on parle de transfert en basket, la sensation, un échange de stars entre deux clubs qui a fait très grand bruit, c'est dans la NBA.
Ah oui, et puis à lire les réactions sur les réseaux sociaux, certains sont vraiment tombés de leur chaise en apprenant que Luka Doncic, le meneur des Dallas Mavericks depuis 2018, partait chez les Lakers de Los Angeles et que le pivot Anthony Davis, lui, faisait le chemin inverse. Doncic, slovène de 25 ans, finaliste 2024, rejoint la franchise californienne de LeBron James dans le but plus ou moins avoué de le remplacer à terme, la légende qui est quand même âgée de 40 ans. Davis, lui, va renforcer la défense texane. Mais dans les deux cas, il faudra attendre un petit peu pour les voir sous leur nouveau maillot, parce que tous les deux sont blessés.
Merci Christophe Diremzian. On vous laisse aller participer à la Haie d'honneur pour le retour des handballeurs français à Paris. En attendant de reparler F1, direction la Côte d'Ivoire sur les traces de deux pépites ivoiriennes de footballeurs. Amad Diallo, révélation de Manchester United. Alors, c'est pas forcément sa journée. Et Ahmed Junior Traoré, qui lui a déjà marqué 8 buts cette saison avec l'AJ Auxerre en France. Les deux joueurs viennent de la même académie à Abidjan. Ils ont quitté la Côte d'Ivoire pour l'Italie au même moment avec leur papa de cœur, un certain Ahmed Mamadou Traoré, président de l'académie, qui nous raconte cette incroyable histoire au micro à Abidjan de Youen Gourli.
Sous un soleil de plomb, une vingtaine de jeunes joueurs s'affrontent sur un terrain sable de la Leader Foot Academy dans la commune d'Adjamé à Abidjan, sous le regard d'Ahmed Mamadou Traoré, le président de l'académie.
Faut communiquer.
C'est lui qui a changé le destin de son neveu Ahmed Junior Traoré, actuel attaquant de l'AJ Auxerre, et de son autre fils de cœur Ahmad Diallo, serial buteur et passeur avec Manchester United. Les deux joueurs ont été repérés dans les tournois de quartier de la commune avant d'évoluer dans les équipes relevées de l'académie. Ahmed Mamadou Traoré se souvient de leur niveau de l'époque.
Ahmad, il était rapide dans tout ce qu'il faisait. Il était bien petit, bien fin. Il avait des joueurs plus talentueux. Quand j'ai dit ça, je me dis, mais ces joueurs talentueux-là, ils sont où? C'est la vie. À 8 ans, on ne peut pas définir une carrière.
Alors qu'Ahmad Diallo a 12 ans et Ahmed Junior Traoré 2 ans de plus, Ahmed Mamadou Traoré met tout en place pour que les deux jeunes s'installent dans sa résidence à Barco, près de Parme.
J'ai demandé la permission aux parents. Les enfants, ils partaient à l'école, ils faisaient les loisirs, ils faisaient tout ce que les autres gamins faisaient.
Les deux jeunes débarquent ainsi dans le nord de l'Italie et évoluent dans le petit club de Boca Barco avant de taper dans l'œil des recruteurs.
Ils ont commencé à carburer. Il y a la Juventus qui était intéressée, il y a Rome qui était intéressée. Il y avait des propositions, des clubs même étaient prêts à mettre beaucoup d'argent. Moi, j'ai fait asseoir les deux enfants. J'ai dit, ben, vous êtes venus ici pour l'éducation. Donc, ce n'est pas une histoire d'argent, mais c'est une histoire d'avenir, de carrière. Ahmad a proposé Juventus. Ahmed, lui, il a dit Milan ou Rome. Ben, j'ai dit, pour moi, rien de tout cela.
Ce sera finalement l'Atalanta Bergame pour Ahmad Diallo et le Empoli FC pour Ahmed Junior Traoré.
Ils n'étaient pas contents parce que Ahmad, lors de ses vacances, il avait fait un tour à Turin. À la Juventus, il a fait photo avec Pogba. C'était déjà calqué dans sa tête. Les gens, ils sont prêts à donner beaucoup d'argent, mais ici, l'argent, ça se gagne après.
Cette saison, Ahmad Diallo, c'est 9 buts et 7 passes décisives avec Manchester United. Et Ahmed Junior Traoré, 8 buts avec l'AJ Auxerre. Des performances actuelles qui font la fierté de leur papa de cœur. Mais la belle histoire est controversée. Les deux joueurs ont été condamnés en 2021 par la justice italienne à 48 000 euros d'amende dans une affaire de faux documents. Il était indiqué sur leur papier qu'ils étaient tous les deux frères et qu'ils étaient les fils du président de l'académie, ce qui était faux.
Ils ont remis en cause le document que nous avons fait à la justice ici. et ils ont mis ça comme trafic d'enfants. Mais ça pouvait gâcher la carrière, mais les enfants sont en train de jouer.
Le président de l'académie n'est pas très à l'aise avec cette histoire et préfère aujourd'hui se focaliser sur le développement de son académie. Son souhait désormais, que ses deux fils de cœur deviennent de grands joueurs de la sélection ivoirienne. Yoann Gourlet, Abidjan, RFI.
His Ferrari teammate Felipe Massa.
Grand Prix du Brésil 2007. Trois pilotes peuvent être sacrés champions du monde. Lewis Hamilton, Fernando Alonso et Kimi Raikkonen. Felipe Massa s'élance en tête devant le pilote britannique et l'autre Ferrari. Il laisse son coéquipier remporter la course alors que cette dernière s'avère extrêmement compliquée pour Lewis Hamilton qui ne termine que 7e. Fernando Alonso, quant à lui, termine 3e, offrant ainsi le titre à Kimi Raikkonen.
Merci à cet internaute qui a produit cette vidéo qu'on a diffusée donc pour Mondial Sport sur RFI aujourd'hui. Un voyage dans le temps, à l'époque Hamilton était un jeune espoir finalement du circuit et en 2007 c'est pas lui qui remporte le championnat du monde, c'est Raikkonen, Kimi de son prénom, avec la couleur rouge de Ferrari, au volant d'une Ferrari, et c'est le dernier titre d'un pilote Ferrari dans le championnat du monde. Ferrari remportera un dernier titre constructeur l'année d'après, en 2008. Et pour Lewis Hamilton, qui désormais est un vétéran à 40 ans, qui vient de rejoindre Ferrari, eh bien le dernier titre de champion, le 7e, donc record de Schumacher égalé, date de 2020. Donc tout ça nous rappelle que ni Hamilton ni Ferrari n'ont le vent en poupe ces derniers temps. Est-ce que, Frédéric Ferré, on n'est pas un peu dans le transfert du siècle, surtout dans une alliance de has-been, désolé pour l'expression?
Alors,
C'est un peu dur, je fais dans la provocation.
Has-been, vous êtes dur pour Lewis Hamilton, qui en 2007 en était à sa première saison, en 2008 en était à son premier titre. Donc c'est pour vous dire que quand même il n'était pas bon chaud à l'époque. Une première saison et être en course pour le titre à la dernière épreuve, ça veut dire qu'on n'est pas si mauvais.
Ah non, mais à l'époque...
La manière dont il a remporté l'an dernier le Grand Prix d'Angleterre devant les siens, battant le record de Schumacher du nombre de Grands Prix gagnés sur un même circuit, à la barbe de McLaren qui était favori, à la barbe de Ferrari qui aurait pu être l'outsider de cette course. Franchement, ça prouve qu'il n'est pas mort. Je ne m'inquiète pas pour son talent de pilote. Et quant à Ferrari de moribond de 2020, après les soupçons de tricherie qui ont pesé sur elle et leur moteur survitaminé, je pense que la nouvelle direction menée par Fred Vasseur a su tranquillement, sans stress, malgré la pression des tifosi, remettre toutes les choses à plat et remettre tout dans une forme de plénitude et de concentration sur cette bataille pour le titre. Il ne s'agit pas d'être vainqueur à la fin de l'année, même si tout le monde a envie de l'être, mais d'être dans les bonnes conditions pour se battre pour le titre. C'est ça qui compte et c'est la manière dont Fred Vasseur a su mener les troupes.
Gaël Angleviel, vous en parliez un peu de cette disette Ferrari, peut-être cette pression quand même d'une victoire. Et vous parlez aussi beaucoup de Frédéric Vasseur. Peut-être qu'on devrait lui consacrer à cet homme de l'ombre, entre guillemets, une émission. Gaël Angleviel, c'est le pilote ou la voiture qui permet de gagner? Un peu des deux, évidemment.
Les deux, mon cher.
Et a-t-il la voiture pour gagner alors, s'il est toujours un grand pilote, Hamilton?
Oui. Aujourd'hui, on peut dire oui, effectivement. Et comme le rappelait Frédéric Ferré, c'est l'histoire vraiment d'une équipe. C'est vrai que nous, spectateurs et les autres, d'ailleurs, ne voyons que les pilotes qui montent sur les podiums et brandissent les trophées. Mais encore une fois, la victoire est collective, vraiment. Quand vous avez derrière des mécaniciens qui sont surbookés et qui font des heures à n'en plus finir, les ingénieurs, vous avez les hommes qui se déplacent sur les Grands Prix, ceux qui restent aux usines. Ce sont vraiment des équipes incroyables qui travaillent H24 pour se démener, pour aller chercher le petit dixième. Il est très facile de perdre une demi-seconde, il est très difficile d'aller chercher le dernier dixième qui vous manque pour gagner. Donc c'est vrai que c'est une histoire d'homme, encore une fois, c'est une histoire d'entente, c'est une histoire d'un exécutif qui doit bien fonctionner pour aller gagner. On évoquait évidemment l'hégémonie de Mercedes, mais quand vous avez une équipe qui est sur de bon rail et qui a cette culture de la gagne, effectivement, on va aller chercher, collectionner les victoires et les titres. C'est presque, entre guillemets, facile. Et quand vous passez des années à vous prendre les pieds dans le tapis, un petit peu comme Ferrari, ils ont fait venir Fernando Alonso, champion du monde. Ils ont fait venir revenir Kimi Raikkonen. Ils ont fait venir Sébastien Vettel. Et malgré ce, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est vrai que voilà, Ferrari a souvent eu un petit peu ce problème de petite guerre interne, de clans, etc.
Et ça, c'est fini maintenant.
C'est presque fini. Je pense que Frédéric Vasseur
C'est totalement Frédéric Ferré dit que. Et décidément, ce Frédéric Vasseur semble être. Il faudrait peut-être l'emmener mettre fin à certains conflits dans le monde. Il a l'air d'être très doué.
C'est vrai que quand on écoute Frédéric Vasseur qui répondra à des questions, il diffuse un grand calme, une grande sérénité. On se doute bien qu'en interne, c'est pas forcément toujours aussi calme, mais je trouve qu'il, déjà, dans ce qu'il diffuse, ça donne une image de. D'écurie pacifiée. Et puis, il faut rappeler aussi qu'il a beaucoup redressé la barre en matière de stratégie. Sous l'époque de Mattia Binotto, son prédécesseur, on avait critiqué parfois les stratégies un peu à la remorque des autres écuries qu'avait la Scuderia. Là, Vasseur, lui, a souvent su devancer les autres. Et la preuve, c'est la victoire à Monza avec une stratégie très audacieuse pour Charles Leclerc avec un seul arrêt. Quand tous les autres pilotes en avaient fait au moins deux. Donc je pense que oui, Frédéric Vasseur, c'est peut-être l'élément qui donne espoir pour cette alliance.
Il laisse chacun à sa place et jouer sa partition.
Et les
c'est
deux
un chef d'orchestre qui s'est éclipsé.
Et rappeler aussi qu'il y a quand même une culture de la gagne chez Ferrari, même si les derniers titres remontent. La plus titrée dans l'histoire du championnat des constructeurs, comme dans celui des pilotes. Voilà la place de Ferrari dans l'histoire. Quant à Hamilton, on rappelle co-détenteur du record des titres pilotes avec l'ancienne star Ferrari, justement, Michael Schumacher. Mais Hamilton, il a 40 ans, donc c'est peut-être une question qui se pose aussi, son âge. On a parlé de LeBron James, on a souhaité un joyeux 40e anniversaire à LeBron James il n'y a pas longtemps. On pourrait parler de Cristiano Ronaldo en football. Enfin, on a aussi vu Nadal devoir quitter le circuit en tennis. Djokovic, on se demande. Alors voilà, quid d'un pilote de 40 ans? Peut-on durer aussi longtemps au volant d'une F1 que dans d'autres sports? Bonjour Xavier Feuillet.
Bonjour Gaël.
Merci d'être avec nous. Ancien pilote de motocross et supercross pendant une bonne quinzaine d'années. Et surtout, vous avez créé 3-2-1 Perform ou 3-2-1 Perform. Je ne sais pas s'il faut le prononcer en français ou en anglais. Un centre qui accompagne des pilotes tant sur les plans physiques que mentaux et cognitifs. D'ailleurs, vous travaillez avec des pilotes de Formule 1 actuels, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait. Comme Esteban Ocon, Alexander Albon également.
Donc vous êtes au contact de ces champions et vous connaissez aussi bien la préparatrice physique de Lewis Hamilton, dont on peut peut-être dire un mot. C'est peut-être l'une des personnes clés dans la carrière de Lewis Hamilton.
Oui, tout à fait, Angela Cullen. Alors elle est là à bord pour être un véritable charpentier, j'ai envie de dire, de sa préparation. Donc, c'est-à-dire qu'elle veille à coordonner tout ce qui peut y amener une meilleure hygiène de vie, un équilibre de vie. Et puis optimiser certains facteurs en ce qui la concerne, beaucoup sur le pôle physique. Donc ils se sont un peu séparés, visiblement retrouvés. Et voilà. Et puis ça correspond à une période où on a l'impression qu'on a affaire à un Hamilton aussi qui cherche à renouer un équilibre qui serait gagnant, quoi.
Le physique, pour le grand public, c'est peut-être pas forcément évident, mais le physique, même s'il ne court pas ou qu'on ne le voit pas utiliser son corps comme seul outil de performance, le physique, c'est très important chez un pilote. C'est pas vous qui allez me contredire.
Non, effectivement, c'est très important. Alors, ce n'est pas une qualité déterminante, c'est-à-dire une qualité qui va amener le pilote à être devant un autre pilote, hein, mais c'est une qualité indispensable pour pratiquer. C'est-à-dire que si on ne l'a pas, on ne peut pas pratiquer ou alors on le fait dans très mauvaises conditions. À titre d'exemple, sur des virages rapides à 3G, 2,5 ou 4G, la tête elle va se mettre à peser 65 kg. Donc si on n'est pas à même de tenir sa tête et de bien orienter le regard, bon, mais on est beaucoup plus lent en termes de vitesse de passage. Et ça a une conséquence toxique sur la vitesse autour. Il y a des grandes phases d'apnée aussi sur les freins, où ils subissent 7G. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes G que les pilotes de chasse, parce qu'il n'y a pas de G verticaux, mais c'est assez violent. Donc, ils perdent la vision, ils se mettent en apnée, ils se carencient en oxygène qu'il faudra retrouver sur des bouts droits pour conserver toute sa lucidité.
Alors, c'est plus qu'important le physique, parce que là, on est carrément sur des cascades ou des sports extrêmes.
Xavier est modeste, mais il oublie de dire ce que c'est un docteur d'enfer qui martyrise ses pilotes pour leur bien.
À vous les pousser au bout.
Mais il a inventé des machines abominables que j'ai eu le malheur de tester, où vous faites du ping-pong avec deux raquettes, en même temps qu'il vous pose des questions de multiplication. Donc, pour faire travailler le cerveau pendant que vous êtes concentré sur autre chose.
Alors, est-ce qu'à 40 ans, Lewis Hamilton, il peut réussir vos tests si extrêmes, Xavier Feuillet? Est-ce qu'à 40 ans, on peut continuer à être le meilleur pilote du monde? Ou redevenir le meilleur pilote du monde?
Alors, j'aurais bien voulu déjà le tester, hein, en fait, du temps de sa brillance, on va dire. Mais même maintenant, je pense, ça reste toujours une référence. C'est probablement le pilote qui maîtrise le mieux une grande quantité de paramètres, que ce soit en vitesse de pointe, en communication aussi. Je trouve qu'il y a toujours une très, très bonne communication de par son analyse du milieu, par exemple, ou ses gestions de course. On le voit dominer, être capable de remonter, être stable. Alors, est-ce qu'on est toujours capable de ça à 40 ans? Il y en a quand même qui se sont essayés, qui n'ont pas trop mal réussi l'exercice, hein, avec le retour de Schumacher ou Alonso, par exemple. Est-ce qu'il en est capable? Donc, il faudra amener des choses nouvelles, c'est certain. Ce n'est peut-être pas en optimisant ce qui a déjà été fait qu'il va y arriver. Parce que ça, il l'a déjà fait avec Mercedes. Et puis, on le voit un peu en dessous de George Russell, un peu mieux parfois, mais bon, aussi en dessous. En tout cas, il ne revient pas au plus haut niveau. Donc, il faudra essayer des choses nouvelles. Après le vieillissement, les premiers facteurs qui vieillissent comme ça dans le temps, c'est la vision. Alors, cette vision, elle peut se travailler, que ce soit pour avoir une vision périphérique plus large, par exemple. Il faut réhydrater l'œil. Par exemple, on a des petits bâtonnets photosensibles qu'on peut réhydrater pour mieux y voir, mieux percevoir les reliefs, avoir une vision un petit peu plus large. On peut aussi travailler sur les vitesses d'influx nerveux, par exemple, et les réflexes. Ce sont des qualités qui se dégradent avec l'âge, mais qu'on peut travailler. Alors, est-ce qu'il va vouloir accéder à ce type de travail? Est-ce qu'il le fait déjà? Ça, je ne le sais pas encore, mais je pense qu'il pourra peut-être revenir à très, très haut niveau en essayant des choses nouvelles, en tout cas, ouais.
Patrick Juillard, vous avez posé une question.
Oui, parce qu'on voit qu'il y a un mouvement un petit peu parallèle entre, d'une part, des pilotes de plus en plus expérimentés qui essayent de durer longtemps, comme Hamilton, et d'autre part, des rookies de plus en plus jeunes. Et la caricature de ça, c'est Andrea Kimi Antonelli, qui a à peine 18 ans et qui vient d'avoir son permis de conduire et qui va courir en Formule 1. Donc, comment est-ce que vous pouvez gérer des profils aussi dissemblables entre des gens très expérimentés et des gens aussi jeunes?
Alors, sur des pilotes aussi jeunes, effectivement, donc il faut les aider à mettre le pied à l'étrier, en peut-être leur apprenant à mieux gérer la pression. Ils n'ont pas encore l'expérience non plus totalement d'eux-mêmes et puis de ce type d'exigence, donc il reste à parfaire des thèmes comme cela, la gestion de la pression, être capable de s'adapter rapidement, bien se tenir aux limites de la voiture, pas avoir trop d'engouement pour la dépasser, en fait, pour rester fiable. Les pilotes plus expérimentés ont trouvé leur solution, en fait, n'ont pas besoin de ça, quoi. Je pense qu'il faut retrouver du pic de performance chez les pilotes expérimentés, alors que probablement il y en a un petit peu moins besoin sur les jeunes, quoi, qui sont frais, en pleine vitalité, avec beaucoup d'ambition, mais pour lesquels il leur reste un petit peu à faire leurs armes. Donc, on ne les entraîne pas de la même façon.
Frédéric Ferré, finalement.
Je vais rebondir sur deux remarques de Xavier. L'envie, l'appétit de gagner. Je pense que Lewis l'a retrouvé en signant chez Ferrari.
Et son crash, on revient à ce qu'on disait au début d'émission, on est la preuve.
Exactement. Et quand il évoque le fait que George Russell l'ait dominé, il y a aussi un facteur d'amour qu'il ne ressentait plus chez Mercedes, un peu comme un vieux couple qui est en train de petit à petit se désagréger sans que personne ne dise rien. Et je crois que le fait que et Frédéric Vasseur et Charles Leclerc et les Tifosi l'aient accueilli comme ils l'ont accueilli lundi dernier va lui redonner l'envie d'un débutant.
Voilà, il y a une dimension romantique peut-être chez ces pilotes. Baptiste Le Dugoulier,
bah c'était un peu ça que j'allais dire. C'était cette nouvelle romance en fait qui va permettre peut-être sur les premiers mois, la première saison, de faire un petit peu oublier son âge à Lewis Hamilton. Et puis, il y a aussi une dimension très importante qui est que il y a des voitures plus difficiles que d'autres à conduire. Là, c'est aussi le job de développement qui est extrêmement important en Formule 1. Et Lewis Hamilton, comme Fernando Alonso, qui ont eu à des moments des voitures un peu difficiles à conduire ces dernières saisons, s'en sont plus pleins qu'avant. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est des problèmes de rebond, des problèmes dans les virages rapides aussi.
Le fameux marsouinage.
Le fameux marsouinage, voilà, et qui peut, à 40 ans, devenir un peu plus difficile à gérer que quand on en a 20.
Ah oui, parce que ce sont un peu aussi des... pas des chefs d'entreprise, mais un peu des chefs de projet aussi, les pilotes.
Ah oui,
Xavier Feuillet. Donc, est-ce qu'à 40 ans, on a, oui, peut-être, je sais pas, moins de patience, plus d'exigence, ou est-ce que ça joue, ça aussi?
Alors, oui, ça peut jouer, mais effectivement, j'espère qu'ils ont plus d'exigences, mais pas orientées sur le confort, hein, orientées sur la qualité des outils, la performance. Et donc, j'espère qu'ils ont plus d'exigences. Et effectivement, le fait qu'ils changent d'écurie pour aller vers Ferrari, qui probablement, d'après ce que j'entends dire un peu, a été un rêve pendant quelques années, ça peut relancer la flamme, relancer cette motivation et puis cet engouement à renouer avec la lumière, avec la victoire. Bon. Moi, je pense que c'est quelque chose de très positif pour Hamilton, probablement aussi pour Ferrari, parce qu'il arrive avec une grosse expérience, des méthodes de préparation qui sont très différentes chez Mercedes, et ils vont l'un et l'autre s'enrichir de ça.
Bah écoutez, c'est tout le bonheur qu'on souhaite aux jeunes époux, donc Ferrari et Lewis Hamilton. Merci beaucoup, Xavier Feuillet, d'avoir été en direct avec nous. Vous êtes une sorte de préparateur, aussi bien physique que mental, pour les pilotes de Formule 1. Donc vos paroles étaient précieuses. On a beaucoup appris en vous écoutant. Gaël Angleviel, vous êtes toujours en ligne avec nous. Vous allez sortir un livre sur Lewis Hamilton. Tout simplement, qu'on peut imaginer que certains de nos auditeurs sont suffisamment jeunes pour ne pas avoir vu les débuts d'Hamilton et pas forcément comprendre qui est Lewis Hamilton, puisqu'on va redécouvrir sa vie grâce à votre livre. Vous pouvez nous rappeler pourquoi est-ce que ça crée un tel engouement, au-delà des 7 titres de champion qu'il a glané, pourquoi la personnalité d'Hamilton fait qu'il est accueilli en héros chez Ferrari et qu'on scrute le moindre de ses virages dans l'écurie rouge?
Ben, on l'a déjà rappelé, effectivement, il co-détient le record de titres mondiaux avec Schumacher, donc en ça, c'est déjà une légende, et puis il rejoint Ferrari. Mais au-delà de ça, on l'a déjà dit au début de l'émission, la carrière de Lewis Hamilton a été uniquement faite chez Mercedes. Il signe à l'âge de 13 ans avec une écurie de Formule 1. C'est Ron Dennis qui le fait signer en 1998, il n'a que 13 ans, et à partir de là, McLaren et Mercedes vont financer sa carrière, sa jeune carrière, pour l'amener jusqu'au but ultime de la Formule 1, et c'est ce qui va se produire en 2007. Et à partir de là, effectivement, il ne restera que dans la famille Mercedes, puisqu'il rejoint l'écurie mère Mercedes en 2013. Pour expliquer un petit peu les raisons de cet engouement, c'est une montagne, Lewis Hamilton, jusqu'à 2021 et sa célèbre saison de bataille contre Max Verstappen. Donc de 2007 à 2021, toutes ces saisons ont été ponctuées d'au moins une victoire. Il n'a pas fait une saison vierge. Ensuite, 2022, nouveau règlement technique, nouvelle monoplace avec les difficultés que l'on connaît. George Russell le bat justement parce que Lewis Hamilton avait accepté d'endosser ce rôle, d'essuyer les plâtres un petit peu, d'essayer de mettre au point ce Mercedes. Ça n'a pas forcément réussi, mais voilà, jusqu'à 2021, Lewis Hamilton, c'était au moins une victoire par saison. Donc, on voit bien à quel point...
C'est donc bien une légende qui rejoint...
bien sûr.
Qui rejoint... Bon, je suis obligé de vous interrompre parce que l'heure tourne, Gaël Angleviel. Je vais remercier Frédéric Ferré du journal L'Équipe d'être venu nous voir.
Merci.
Patrick Juillard,
merci
Baptiste Leduc, merci Hélène Avril. Là, c'est tout. Ça maquait à la préparation et à la réalisation de Mondial Sport. Et on suivra donc la nouvelle carrière, la nouvelle jeunesse de Lewis Hamilton, le quadra au volant de Ferrari. On lira le livre de Gaël Angleviel, pourquoi pas. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine sur RFI pour Mondial Sport et demain, Radio Foot. Très bonne soirée.